Et bienvenue, si vous venez de nous rejoindre jusqu'à 20h, vous écoutez Thierry Dagiral, le programme de la prochaine heure, Thierry.
Et bien après le journal, un coup de chapeau à ceux qui s'engagent à des initiatives solidaires, 19h20. Vous le savez, on réfléchit au monde d'après, on va parler de la mer ce soir avec la navigatrice Maude Fontenoy. 19h30, tube d'été, Angèle Châtelier et la culture. Enfin 19h40 jusqu'à 20h, on part en balade douce France. Balade dans nos régions, nous serons ce soir en Alsace. Europe 1 tout l'été, avec plaisir à vos côtés.
Votre grand journal du soir, c'est avec François Claus et Thierry Dagiral. Il est 19h.
On n'a pas l'impression en fait qu'on est dans une épidémie. Pff, j'ai honte. Non, je fais pas vraiment attention.
Comment concilier le bonheur d'être en vacances sur une plage corse et le respect indispensable des règles sanitaires? Reportage dans un instant.
Le gouvernement a entendu le patronat et élargi le dispositif d'aide à l'embauche des jeunes. Tout le détail est dans un instant.
Pour la première fois en France, malgré l'accumulation des plaintes durant la crise du Covid, voilà une information judiciaire qui est ouverte pour homicide involontaire contre un EHPAD, celui de Val-d'Oie, près de Belfort.
Elle s'appelle Dominique Arviol, elle est générale. Et pour la première fois, une femme est nommée à la tête de la prestigieuse école de l'air, on vous la présente.
On attendait ça depuis le 11 mars dernier, un match de foot, un vrai, pour une compétition, une vraie, J-1 avant la finale de la Coupe de France, PSG Saint-Etienne. La Bourse de Paris, stable ce soir à 5037 points.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, elle continue de faire assez chaud sur le sud, un petit peu moins sur le nord à cause de ces passages nuageux très fréquents et l'arrivée de cette petite perturbation depuis la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France, tandis que partout ailleurs, la météo reste très estivale. Je vous donne donc la fourchette des températures entre 21 à Lorient et 35 à Nîmes. Je vous détaille tout cela tout à l'heure comme d'habitude.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Thierry Dagiral, François Claus.
C'est une question qui se pose aujourd'hui à peu près dans toutes les zones touristiques. Comment concilier l'indispensable besoin d'évasion, le relâchement forcément inhérent aux vacances, tout en continuant à respecter la distanciation et la nécessaire protection face à une épidémie toujours aussi latente? C'est cette question qui est allée poser et qui est allée mesurer sur le terrain notre reporter Caroline Baudry dans un des lieux touristiques les plus prisés de France, la Corse.
Eh bien ici sur cette plage d'Ajaccio, le contrôle est léger, m'explique Florent, chef du poste de secours. Casquette et lunettes sur la tête, il surveille la baignade. Il doit porter un masque et des gants pour manipuler son matériel, mais impossible de veiller aux gestes barrières sur le sable.
Mais sinon, on n'a pas de consignes concernant les distanciations physiques entre les personnes sur la plage. Personnellement, je pensais qu'on aurait au moins un briefing à ce sujet. Et on a été un peu étonnés que ça n'ait même pas été évoqué, rien du tout. On peut dire que ce qui se passe sur la plage, ça n'a pas vraiment changé.
L'ambiance est intacte, poursuit-il. Un cadre de vacances attendu par Sarah et Clément, des Lyonnais qui viennent d'atterrir.
On n'a pas l'impression en fait qu'on est dans une épidémie. Pff, j'ai honte. Non, je fais pas vraiment attention.
Néanmoins, c'est vrai qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde. J'aurais vraiment changé d'endroit, je pense.
Résultat, c'est bien à chacun de faire attention en posant sa serviette. Pour l'instant, les distances sont respectées, mais cela pourrait se compliquer avec l'arrivée de nouveaux touristes, raconte Marie-France, qui habite Ajaccio.
Il y a des personnes qui sont nouveaux arrivants, qui s'installent avec un instinct grégaire qui fait qu'ils se rapprochent tout le temps de vous. J'ai déjà eu une altercation. J'étais très en colère, elle est partie. Je vais pas mettre un masque à la plage, hein. Impossible.
Allongée sur la plage, elle confie « Si l'espace est bondé, je laisserai ma place aux touristes qui, eux, n'ont pas la chance de vivre à la mer. »
Caroline Baudry en reportage pour Europe 1, non loin d'Ajaccio, en Corse bien sûr. La mort ce soir d'un soldat français au Mali dans des combats contre des groupes armés. Un soldat du 1er régiment des hussards parachutistes de Tarbes. Le président de la République fait part ce soir de sa très grande tristesse. Le Parlement, dans le même temps, adopte définitivement la loi validant la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale consacrée à la dépendance.
Ne laisser aucun jeune sur le bord de la route, avait déclaré Emmanuel Macron. Nous avons décidé de mettre le paquet sur l'embauche des jeunes, renchérit aujourd'hui Jean Castex à Besançon.
En détaillant le dispositif de son plan d'aide à l'embauche pour ces 700 000 jeunes qui vont se retrouver sur le marché du travail. Une aide de 4 000 euros pour toute entreprise qui embaucherait un jeune de moins de 26 ans gagnant jusqu'à l'équivalent de 2 000. Matignon, après les premières annonces, a donc décidé de renforcer son dispositif pour en faire bénéficier et les plus diplômés et les apprentis. Le patron de la Fédération des entreprises technologiques, Mathieu Courtecuisse, veut y croire.
C'est une double bonne nouvelle puisque non seulement les jeunes diplômés vont pouvoir bénéficier de cette aide, mais également les apprentis qui sont entre Bac+3 et Bac+5 puisque normalement ils devraient être aussi inclus dans le dispositif d'aide.
On pourrait se dire que les jeunes diplômés sont mieux armés quand même quand ils arrivent sur le marché du travail et qu'ils n'ont peut-être pas besoin des aides qu'on réserve aux non-diplômés.
C'est le cas, ils sont mieux armés, mais les études démontrent que même pour les jeunes diplômés, lors des crises précédentes, 5 à 7 ans plus tard, ils étaient toujours moins dans l'emploi que leurs camarades des promotions d'avant ou d'après, et ils étaient moins rémunérés aussi que leurs autres camarades. Et là, la crise est d'une gravité quand même extrême, et donc il n'y avait pas de sujet d'effet d'aubaine, il fallait que ce plan soit massif, qu'il concerne tout le monde, parce que c'est vraiment les jeunes dont on a besoin pour l'économie de demain.
Alors voilà la réaction du patronat, celle de la Fédération des entreprises technologiques, qui du côté des jeunes, écoutez, même le très rebelle syndicat UNEF reconnaît que l'effort est conséquent, mais s'interroge malgré tout. Majdi Shaharana, vice-président de l'UNEF.
C'est quand même un plan qui est assez massif, 6,5 milliards d'euros, donc ce qui est beaucoup. Mais par contre, nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il y a une absence d'accompagnement social des jeunes pour leur permettre de pouvoir accéder à l'autonomie, pour pouvoir avoir un financement comme le RSA ou en tout cas des aides auxquelles ils sont actuellement exclus. Et donc, on pourrait penser que ce plan cacherait aussi une aide de soutien aux entreprises sans forcément aider durablement les jeunes. Parce que lorsqu'on voit les mesures, il n'y a rien qui cadre ces aides-là pour assurer une contrepartie des entreprises pour engager les jeunes en CDI, par exemple, ou en tout cas permettre à ce que les jeunes puissent être insérés dans le marché du travail durablement et de ne pas juste faire des effets d'annonce qui vont aider quelques jeunes dans la période, mais pas durablement.
Voilà les propos du vice-président de l'UNEF, propos recueillis par Olivier Samin.
Et cette question à présent, que s'est-il passé au sein de l'EHPAD de Val-d'Oie, près de Belfort, pendant la crise du Covid ?
Le parquet de Belfort vient de donner suite aux plaintes déposées par la famille d'une aide-soignante et par le fils d'un des résidents. De nombreuses plaintes ont été déposées contre des EHPAD durant la crise du Covid. On pense notamment à l'EHPAD de Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Mais l'ouverture de cette information judiciaire pour homicide involontaire, Arthur Mbaché, c'est une première en France.
Oui, la maison de retraite La Rosemontoise à Val-d'Oie, près de Belfort, un EHPAD apparemment très mal organisé avant même l'arrivée du coronavirus et qui a sombré pendant la crise, 30 résidents décédés, plus une aide-soignante, et donc aujourd'hui cette information judiciaire pour homicide involontaire, violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, c'est-à-dire concrètement pas de consigne pour que le personnel porte un masque avec les résidents, des postes de cadre pas pourvus ou encore 40% des aides-soignants absents. Maître Fabien Arakelian est l'avocat de deux familles de victimes.
On n'est pas dans une chasse aux sorcières, vous savez, il y a des EHPAD dans lesquels ça s'est très bien passé, il faut le dire également. Mais le fait est, c'est que ces dysfonctionnements, on les voit dans la France entière. Moi, mon cabinet a déposé plus d'une trentaine de plaintes et j'ose pas imaginer un instant que ce n'est pas une trentaine d'ouvertures d'informations judiciaires. Donc, il me semble qu'on est au début d'un processus judiciaire inéluctable dans ce qui convient d'appeler en réalité un scandale de santé publique.
En ce qui concerne cet EHPAD-là à Val-d'Oie, l'Agence régionale de santé et le Conseil départemental avaient dessaisi la direction de ses fonctions dès le mois d'avril.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe dans l'Est de la France. Historique adjoint à la mairie de Paris, Christophe Girard annonce ce soir qu'il quitte son poste dans la nouvelle majorité de la maire réélue Anne Hidalgo. Les écologistes lui reprochaient notamment son soutien à l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff.
Europe 1. 19h08, à suivre Thierry de Girel.
Dans un instant, une femme à la tête de la prestigieuse école de l'air. C'est une grande première dans l'histoire militaire française. Et on vous la présente dans deux minutes sur Europe 1.
Europe 1. Il est 19h09, la suite du journal sur Europe 1, François Claus, Thierry de Girel.
Et c'est une grande première dans l'histoire de l'armée française, c'est un symbole très fort.
Et oui, pour la première fois, une femme va prendre la tête de la prestigieuse école de l'air. Bienvenue au général Dominique Arbiol. D'ailleurs, Justin Morin, faut-il dire Madame le Général ou Madame la Générale ?
Alors, j'ai épluché le décret d'affectation au journal officiel et au milieu d'une horde de nominations de Monsieur le Général, on lit bien Madame la Générale Dominique Arbiol. Mais ça, c'est juste pour le document officiel, puisqu'en réalité, elle tient à ce qu'on dise Madame le Général. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au tout début de sa carrière, cette fille de gendarme s'est distinguée pour les mêmes raisons. À 18 ans, c'est la première fille à intégrer les classes préparatoires de l'école des pupilles de l'air à Grenoble. Sauf qu'au moment de passer les concours pour intégrer l'école de l'air qu'elle dirige aujourd'hui, elle a le niveau requis, mais elle est recalée à cause des quotas qui limitent l'accès aux femmes. Elle devient donc mécanicienne sur les avions de combat, puis retente sa chance quelques années plus tard par le biais d'un concours interne à l'armée de l'air. Cette fois admise, elle terminera major de sa promo. Dominique Monique Arbiol passe donc une grande partie de sa carrière comme officier de renseignement sur le terrain, en Irak, en Turquie, en ex-Yougoslavie. Elle se forme aussi au domaine spatial, dirige notamment le centre militaire d'observation par satellite de Creil. Aujourd'hui, à 55 ans, elle repart du côté de Salon de Provence pour prendre la tête de cette prestigieuse école de l'air. La preuve, dit-elle, que les plafonds de verre tombent peu à peu au sein de l'armée.
Merci Justin Morin. Précisons, Thierry, que Madame le Général Dominique Arbiol sera invitée d'Europe 1 demain à 7h40 avec François Geffrier.
On va terminer. On va terminer avec le football. Exactement,
ben oui.
J'ai compris. Voilà. Nous sommes un peu plus de 24 heures du coup d'envoi du vrai match, du premier vrai match de compétition en France avec des supporters et tout ce qui va avec depuis le 11 mars dernier.
Oui, pas tout à fait ce qui va avec. Et c'est bien ce qui manque. L'affiche est formidable. PSG Saint-Etienne, mais seulement 5000 personnes au Stade de France. Une jauge jugée insuffisante pour les supporters stéphanois qui avaient 900 places et qui ont refusé de monter à Paris. Contexte donc très particulier pour ce match. C'est ce que formulait entre autres l'entraîneur stéphanois Claude Puel tout à l'heure au micro de Cyril de la Morinerie.
C'est un premier match de reprise avec beaucoup d'interrogations, même si je pense qu'on a fait une préparation très intéressante. Mais voilà, c'est très très particulier avec ses remplacements, avec des possibilités pour cette équipe parisienne, si baisse physiquement, de pouvoir injecter très vite d'autres joueurs hors normes. Le confinement, la pandémie, il faut s'adapter, prendre tout ça en considération et on défendra chèrement notre chance.
Claude Puel, l'entraîneur des Stéphanois au micro de Cyril de la Morinerie. Et puis cette fois, c'est un non officiel. L'actionnaire américain de l'OM, Frank McCourt, rejette toute négociation avec le candidat à la reprise, le franco-tunisien Mohamed Ajroudi.
Merci François Claude, vous revenez à
19h30.
C'est parfait, tout à l'heure.
Trompé.
Le grand journal du soir, la suite avec vous Thierry Dagiral et la bonne idée du jour.
Et on tire un coup de chapeau tous les soirs, vous le savez, à une initiative. Bonsoir Caroline Lopez.
Bonsoir.
Vous êtes la créatrice de Story Enjoy. Alors, il y a des familles, par exemple, qui ne vont pas pouvoir prendre l'avion pour se voir cet été, des petits-enfants qui ne peuvent pas se rendre en EHPAD voir les grands-parents. Vous avez la solution.
Oui, effectivement. On a la solution. Effectivement, Story Enjoy, c'est, déjà, vous l'avez dit, c'est une histoire de famille, hein, pour commencer, avec mon petit garçon qui a toujours adoré que sa mamie lui raconte des histoires, avec une mamie qui vit à quelques milliers de kilomètres. Et c'est exactement ce qu'on a tous vécu pendant ce confinement et ce qu'on va vivre pendant cette période de vacances très particulière.
Dites-nous, hein, c'est quoi le principe alors?
Alors, le principe de Story Enjoy, c'est une application qui permet à tous les membres de la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes, d'enregistrer des histoires, des livres en vidéo aux enfants, en fait. Et ces enfants vont pouvoir, les petits-enfants, vont pouvoir les voir et les revoir à la demande.
Bien. Ouais, d'accord.
Ouais.
Et donc, on peut s'y mettre une pincée de choses, de touches personnelles dans ces histoires? Comment ça se passe?
Alors oui, bah, en fait, c'est clairement, c'est beaucoup de cœur, en fait. Comment ça se passe? On choisit d'abord une histoire qu'on sait qui va faire plaisir à l'enfant qu'on a envie de gâter. Et au travers de l'application, en quelques clics, c'est très, très simple, c'est ce qu'on voulait. La vidéo, la webcam se déclenche du téléphone ou de la tablette ou de l'ordinateur. Et là, on suit le prompteur. Et c'est un enregistrement qui est fait de l'histoire qu'on est en train de raconter.
D'accord.
Voilà, donc avec toutes les mimiques, tous les regards, tous les sourires. La force de Story Enjoy, c'est vraiment la vidéo, en fait.
Très bien. Et ça coûte combien, dites-moi?
Ça coûte, en fait, c'est des histoires qui sont vendues. Bon, d'abord, la première histoire, avant tout, est gratuite.
Ouais.
C'est l'envie de pouvoir en faire profiter tout le monde. Et puis, ensuite, ces trois histoires vont coûter 15 €. Des packs de 10 histoires, 29 €. Et on a vendu pendant le confinement, effectivement, où on a offert pas mal de packs. Derrière, on s'est rendu compte qu'on vendait beaucoup de packs illimités, c'est-à-dire pour une année, pour 49 €. Je raconte d'histoire que je veux.
Voilà. C'est la bonne idée du soir. On voulait vous tirer un coup de chapeau. Merci beaucoup. Story Enjoy. Merci à vous, Caroline Lopez.
Merci beaucoup, Thierry.
La météo tout de suite. Valérie Darmon, demain c'est vendredi, ça sent bon le week-end déjà. Ça va donner quoi ce week-end justement?
Alors ça va donner un samedi beau et un dimanche agité. Ah. Donc préférez samedi pour sortir et faire ce que vous avez à faire parce que le temps sera de nouveau donc plus nuageux avec quelques averses au nord de la Loire. Dans la nuit entre la Normandie et la Hauts-de-France, il pleuvra assez copieusement et le soleil sera présent sur un bancard sud-est et ailleurs. Ça commencera à se ternir parce que dimanche c'est agité. La perturbation atlantique qui va arriver donc le samedi par le nord-ouest va traverser les deux tiers nord de la France. Il va donc pleuvoir carrément du bassin aquitain aux frontières de l'Est. À l'arrière, le temps sera instable avec des averses et beaucoup de vent en bord de Manche, des rafales à 70 km/h. De Rhône-Alpes aux Pyrénées, il fera assez beau jusqu'en milieu d'après-midi, avant, là aussi, l'arrivée des orages. Dans ce contexte, les températures vont baisser un petit peu sous la pluie et les averses. On attend 18 à 29 du nord au sud. Un mot de demain tout de même, parce qu'on y va progressivement hein, vers le mauvais temps de dimanche.
Donc, bah, ce sera nuageux demain, sur un petit...
Voilà. Voilà, nuageux sur un petit tiers nord, orageux sur les reliefs. Et beau ailleurs tout de même.
Bon. Merci beaucoup Valérie Darmon, météo des plages à 19h30.
Europe 1. 18h-20h, c'est le grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Thierry Dagiral et c'est maintenant l'heure de votre interview Le Monde de Demain.
Ouais, Le Monde de Demain sera-t-il tourné vers la mer, cet océan qui peut créer des emplois, qui peut nous faire tant de bien, qui peut aussi nous permettre cette relance verte, on en parle dans un instant avec la navigatrice Maud Fontenoy.
Europe 1.
À 19h20, on vous retrouve Thierry Dagiral pour la suite du Grand Journal du Soir et on réfléchit à ce monde de demain. Sur Europe 1, vous recevez maintenant la vice-présidente du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et navigatrice, Maud Fontenoy.
Bonsoir Maud Fontenoy.
Bonsoir.
On se souvient bien sûr de votre traversée de l'océan Atlantique Nord. C'était en 2003, Pacifique Sud, en 2005, première femme à réaliser cet exploit. Maud Fontenoy, le fait qu'il y ait à nouveau un ministère de la mer, c'est un bon signe pour le monde d'après?
Ah oui, c'est un très bon signe. Moi, c'était quelque chose que je portais de mes voeux. Donc oui, je suis très satisfaite qu'on ait enfin pris à bras-le-corps le sujet.
Ouais.
Et j'espère que ce ministère portera une vraie politique, qu'on va renouer un peu avec l'esprit visionnaire qui a pu être celui dans notre histoire de Richelieu et de Colbert, qui avait inventé la marine nationale, ouais. Qui avait planté des forêts pour construire des bateaux. Mmh. Il y a une vraie filière et c'est à la fois, vous parlez à une passionnée, vous me connaissez, mais c'est une filière qui est vraiment inspirante, qui est prometteuse, qui est porteuse d'espoir. Et j'en suis vraiment en toute sincérité convaincue, ça peut faire relancer une cohésion française, voire une cohésion européenne, parce que la France, elle est légitime, elle est la deuxième puissance maritime
c'est
mondiale.
Ça, exactement.
Donc on a un rôle à jouer majeur.
Mais parce qu'il faut bien expliquer qu'il y a bien sûr les poissons, etc., toute l'économie qui va avec, il y a aussi tout le potentiel énergétique de l'océan.
Alors les océans, c'est tout. C'est-à-dire qu'avant toute chose, si on respire l'un comme l'autre dans ce studio, c'est parce que les océans nous donnent plus de la moitié d'oxygène. C'est avant les forêts amazoniennes.
Ouais.
Ensuite, c'est les médicaments. 22 000 médicaments, rien que ça, qui viennent des océans. C'est 13 prix Nobel. On a compris la prolifération des cellules cancérigènes grâce à l'étoile de mer. On travaille sur le nerf optique du calamar, qui est 1000 fois supérieur que le nerf optique humain. Dans un exemple incroyable par rapport à la peau du requin, on s'inspire aujourd'hui de la peau du requin pour créer un revêtement dont on se servira peut-être un jour dans nos hôpitaux pour lutter contre la Covid,
ouais.
Qui empêche l'adhérence des bactéries. Et donc, ça va révolutionner le monde de la médecine. Mmh. Et c'est des exemples comme ça incroyables. Et autant en termes d'énergie, de régulation du climat, c'est un océan de solutions réellement. C'est comment la mer vient au secours de la Terre et des problématiques des humains aujourd'hui.
Et il y a des emplois à la clé, bien évidemment. Combien, vous estimez à combien sans le tourisme?
Alors exactement, c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, on le sait assez peu, mais les emplois du maritime, c'est plus de 350 000 emplois,
ouais.
C'est près de 91 milliards de chiffre d'affaires, de valeur, et en fait c'est plus que l'industrie aéronautique, c'est plus que les télécommunications, c'est plus que le secteur automobile.
Ouais.
Mais c'est juste incroyable, et donc la France, c'est pas l'idée de faire les erreurs, ce n'est pas une deuxième planète, vous voyez, ce n'est pas l'idée de refaire sur mer les erreurs qu'on a pu commettre sur Terre, mais au contraire, de pouvoir mieux faire connaître les océans aux Français. Alors moi, c'est pour ça qu'avec le ministère de l'Éducation nationale, j'ai eu la chance de pouvoir travailler là sur un programme dont je suis ambassadrice pour renouer avec les classes de mer, avec l'éducation à la mer, donc pour dès le plus jeune âge pouvoir travailler avec les enfants, et puis pour développer après ce qu'on espère sera fait avec le ministère, le développement de l'économie maritime sans dégrader l'environnement.
pour être à la hauteur mais des valeurs de tous ceux qui chérissent la mer.
C'est un ministère, celui de la mer, compliqué. Annick Girardin, nouvelle ministre de la mer, va devoir concilier les intérêts à la fois des pêcheurs, les intérêts de l'environnement, des intérêts qui sont souvent divergents, on va dire.
Disons qu'on on a la chance vraiment en France, nous à la fois, d'avoir une vraie légitimité parce qu'on est présent sur tous les océans du globe, on est derrière les États-Unis et on est présent partout. On a chez nous, en France, vraiment un milieu très fertile avec une recherche scientifique qui est parmi la plus avancée, des industriels, c'est vrai, des pêcheurs qui sont, contrairement à ce que parfois on pense, ils sont très engagés. On a des côtes qui sont appréciées. Alors, bien sûr qu'il faut jongler avec tout le monde, mais c'est plutôt des secteurs qui doivent s'unir et une fertilité qui doit être boostée. Parce que je peux vous assurer que le milieu maritime, les gens de mer attendent que ça. Ouais. Et donc j'espère que ce ministère prendra les devants et sera une force aussi pour préserver au niveau diplomatique, au niveau sécurité, assurer la sécurité. Et la Marine nationale sera un allié de taille pour garantir la sécurité de tous nos domaines, parce que c'est l'approvisionnement, il faut le comprendre, hein, c'est notre économie, c'est des zones protégées, pour que la mer, elle soit... non pillés, non surexploités. Aujourd'hui, il y a 60% de la haute mer qui est sans juridiction. Vous imaginez qu'il y a tout à faire.
Le
donc, il faut que
vaste,
la France prenne le leadership. Ouais.
Et Maud Fontenoy, vous auriez pu rentrer dans ce gouvernement. On vous appelait, on parlait de vous éventuellement. Vous êtes en adéquation finalement avec le positionnement de ce gouvernement et de Jean Castex.
On parle toujours, donc on a appelé beaucoup de gens. La vérité, c'est que vous le savez, il y a plein de façons d'agir. Moi, je suis... persuadé qu'on peut agir en politique, c'est vrai. Je ne vais pas vous dire, ils feront rien, je suis plus utile ailleurs. Bien sûr qu'on est utile partout. Donc j'espère que Mme Girardin sera utile dans son ministère. Je crois beaucoup dans le gouvernement de M. Castex. Moi, je continue avec Jean-Michel Blanquer à mobiliser toutes les classes de France sur l'éducation à la mer, sur les classes de mer. Je serai là pour apporter. Je sors un bouquin sur les solutions qui viennent de la mer avec Yann Arthus-Bertrand, tout début novembre.
À l'automne prochain,
oui. Donc voilà, donc, on a besoin d'être tous cohérents, ensemble.
Mais la question derrière, c'est est-ce que les moyens, on a compris les intentions de ce gouvernement, est-ce que les moyens mis en œuvre sont concrets, réels et que ça va produire des effets, bien évidemment.
C'est sûr qu'on a toujours, malheureusement, on a toujours des doutes, déjà parce qu'on est face à une crise économique majeure, donc tout le monde est quand même assez clairvoyant sur le fait que ça ne va pas être facile. Mais moi, je pense qu'au contraire, on peut réindustrialiser la France grâce à l'économie maritime, grâce à cette France maritime, à cette entrée en mer. Beaucoup en ont rêvé dans l'histoire, certains l'ont fait, et je crois que c'est vraiment un vrai axe qui pourrait recréer de la cohésion et avec un enjeu commun de préserver ce qui est les trois quarts de notre globe et dont la composition des mers ressemble à la composition de l'eau qui circule dans nos corps. Je crois que c'est un projet fabuleux. Donc j'espère qu'on va y mettre les moyens.
Maud Fontenoy, c'est ce ministère de la mer, ce ministère de l'écologie, face au mastodonte de Bercy, est-ce que vous y croyez? Est-ce que finalement, une fois de plus, l'économie, les lobbies ne vont pas l'emporter sur l'écologie et sur la mer?
Ah non, mais alors moi, honnêtement, j'y crois. Déjà par principe, parce qu'on ne s'engage pas si on n'y croit pas. Et moi, toute ma vie, je n'étais que engagée. Et quand je suis partie traverser mes océans à la rame, vu que ça n'avait jamais été fait, et encore moins par des femmes, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui y croyait. Donc moi, je suis une arc-boutée sur le fait que l'homme peut réaliser de grandes choses. Je suis arc-boutée sur le principe que le bonheur, il n'est pas forcément confortable. Et arc-boutée sur le fait qu'il faut laisser personne vous dire que c'est impossible.
Ouais.
Donc je suis arc-boutée sur l'idée que oui, ce ministère de la mer peut faire de grandes choses. Après, ça ne va pas être facile. C'est certain que c'est jamais gagné d'avance, qu'il faut jongler avec tout le monde. Mais je crois que pour les filières industrielles françaises, c'est une opportunité exceptionnelle qui s'offre à nous. Et la France, encore une fois, peut être le leader là-dessus. Et donc, c'est une magnifique image que le gouvernement doit prendre cette chance à bras-le-corps. Et je pense que le ministère va le faire. Je ne vais pas en douter. En tous les cas, je serai là pour l'aider.
La navigatrice et amoureuse de la mer, on l'a bien compris. Maud Fontenoy, ce soir sur Europe 1. Merci à vous.
Merci, à bientôt.
Europe 1. Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral.
Restez avec nous à 19h30, tube d'été avec un Zoulou blanc ce soir. Et puis à 19h40, 12 France, on part en balade ce soir direction l'Alsace. Ne bougez pas, vous êtes sur Europe 1. On revient tout de suite. Europe 1.
Le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Thierry Dagiral, il est 19h30.
Avec le rappel des titres, François Claus.
Un soldat français tué au Mali dans des combats contre des groupes armés terroristes. Soldat qui appartenait au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes. Le président de la République fait part ce soir, je cite, de sa très grande tristesse. Comme en France, la Belgique annonce à son tour le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos. Le Parlement vient d'adopter définitivement le troisième budget d'urgence pour 2020 face à la crise du coronavirus avec des mesures sectorielles pour le tourisme, l'automobile, l'aéronautique et en faveur de l'emploi des jeunes. Gérald Darmanin en visite surprise cet après-midi dans le quartier des Moulins à Nice où une fusillade a éclaté lundi matin dans un supermarché. Devant un supermarché, il apporte son soutien aux forces de l'ordre. Jean Castex promet lui des mesures fortes pour lutter contre la violence. Le Premier ministre annonce qu'il se rendra lui-même à Nice samedi. Toute entreprise qui embauchera un jeune de moins de 26 ans, gagnant jusqu'à l'équivalent de deux fois le SMIC, bénéficiera d'une prime de 4000 euros. Nous avons décidé de mettre le paquet, commente le Premier ministre sur l'emploi des jeunes, 6,5 milliards d'euros au total. Adjoint à la mairie de Paris, mais contesté depuis ses prises de position en soutien à l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff, Christophe Girard annonce ce soir qu'il quitte son poste. Non, l'OM n'est pas à vendre. L'actionnaire Frank McCourt, actionnaire américain, refuse formellement de négocier avec le milliardaire franco-tunisien Mohamed Ajroudi. La Bourse de Paris ce soir atone à 5037 points.
Merci beaucoup François Claus. Rendez-vous demain dès 18h. À demain. La météo des plages, Valérie Darmon. Valérie, demain la serviette c'est plutôt autour de soi, c'est pas sur le sable.
Ça dépend. On situe quand même très beau temps hein, sur la Méditerranée.
Ah oui.
Avec une relative mer calme entre 21 et 26, 23 en Roussillon, 24 dans les Bouches-du-Rhône et quelques rafales de vent à 50 km/h parce que Mistral et Tramontane se lèvent dans leur domaine. Sur les plages, c'est grand beau temps. 34 annoncés au Gros-du-Roi, 33 dans les Calanques de Marseille, 27
oui, là,
du côté de Menton. Mais si vous avez envie de la mettre sur vous, n'hésitez pas. Voilà qui tranche avec la météo le long de la Manche et cette petite perturbation qui assombrit votre ciel et qui arrose les régions allant de la Bretagne jusqu'à la Basse-Normandie. Ailleurs, c'est plus nuageux que pluvieux et les valeurs oscilleront entre 19 et 22. Donc vous pouvez aussi la mettre sur votre tête, elle vous protégera de la pluie. Et sur l'Atlantique, le ciel est partagé en deux avec des nuages sur sa partie nord, du soleil sur la partie sud, des valeurs entre 21 à Lorient et 25 à Lacanau, océan calme entre 17 et 23 degrés. Bref, c'est au choix en fait, Thierry.
C'est ça. Allez, repliez votre serviette. Merci beaucoup, Valérie Darmon.
Dans un instant, Thierry, on part en Alsace pour notre rendez-vous d'été 12 France.
Oh oui.
Auparavant, il se rapproche du micro, Angèle Châtelier et Mathieu Charrier.
Et bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Angèle, bien sûr, on commence avec vous, avec les tubes d'été 1988
oui,
ce soir.
Avec Johnny Clegg. Johnny Clegg, surnommé le Zoulou blanc, et ce tube, Assim Bonanga, tube de l'été 88, qui symbolise toute une époque. Nelson Mandela est alors emprisonné depuis 64. Assim Bonanga, en Zoulou, veut dire celui qu'on n'a pas vu, car à l'époque, diffuser des photos de Nelson Mandela était illégal. En zoulou, découplé en anglais. C'est un choix politique à l'époque de Johnny Clegg, lui à la peau blanche, qui dénonce l'apartheid en Afrique du Sud. Cette chanson est même le chant officiel du Front démocratique uni, coalition antiraciale du pays. Elle sort seulement 2 ans après un anniversaire bien particulier pour le pays, justement les 10 ans des émeutes de Soweto qui avaient fait 600 morts en juin 86. Pour éviter les manifestations, le pays proclame un état d'urgence illimité.
Angèle, Johnny Clegg a toujours été militant. Hein.
Oui, militant, connu pour son militantisme. Avec son premier groupe, Julukka, il est le premier blanc à n'avoir que des musiciens noirs. Leur tube Scatterlings of Africa, sorti en 82, est en tête des ventes aux États-Unis et en France. Et C'est avec son second groupe Savuka qu'il sort à Simbonenga. Johnny Clegg forcément a été censuré en Afrique du Sud, ses chansons interdites. Il y a quelques années, il disait à l'AFP « Nous devions faire preuve de mille et une astuces pour contourner la myriade de lois qui empêchaient tout rapprochement interracial. » Avec son groupe, il se produisait dans les universités, chez les particuliers. Alors Nelson Mandela n'est libéré qu'en 1990 et 10 ans après, ils ont interprété tous les deux à Simbonenga, à Francfort. Et à la fin de la chanson, Nelson Mandela avait lancé « C'est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde ». Johnny Clegg, lui, nous a quittés il y a bientôt un an.
Dans les secrets des tubes d'été, c'est avec vous tous les soirs, Angèle Châtelier. Merci beaucoup. Tout l'été, Mathieu Charrier, vous nous conseillez de lire ou de relire les meilleures bandes dessinées sorties cette année. Et aujourd'hui, Mathieu, on parle d'un grand peintre.
Exactement, et d'un grand écrivain. Je vous explique. La BD s'appelle De la Croix. Elle est signée de la formidable Catherine Meurice. Et à côté de son nom sur la couverture, un certain Alexandre Dumas. Parce qu'en fait, Catherine Meurice a repris un texte écrit et prononcé par Dumas le 10 décembre 1864, dans lequel il rendait hommage à son ami De la Croix, mort un an plus tôt. Ça se passait dans la salle d'exposition de la Société nationale des beaux-arts, remplie de monde, car pour lui, Delacroix, c'était tout simplement le maître de la couleur. Il écrivait, écoutez, enlevez-lui couleur, palette, pinceau, toile, il peindra sur la muraille, sur le parquet, au plafond. Il peindra avec le premier morceau de bois, du charbon, de la salive, de la cendre, il peindra où il mourra. Et donc Meurice reprend ce texte, l'illustre de petits dessins et peint également les toiles de Delacroix. Avec son style à elle, évidemment, c'est magnifique. Et en creux, c'est un pan de l'histoire de l'art qui nous est conté. Catherine Meurice.
On découvre à travers ce texte la vie des peintres de l'époque et comment est-ce qu'on faisait pour placer ses premiers tableaux au musée du Luxembourg qui avait été créé par Louis XVIII à l'époque. Ça signifiait qu'on pouvait peut-être ensuite finir au Louvre. Et ce que je trouve vraiment très bien avec ce texte de Dumas, c'est que ce n'est pas un texte d'historien de l'art. On est nombreux à avoir appris l'histoire de France à travers les romans de Dumas. Et là, on apprend l'histoire de l'art, on apprend l'histoire d'un peintre. Et Dumas nous raconte de la croix comme s'il racontait les D'Artagnan, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment génial dans ce texte. Dumas nous emporte.
Oui, voilà, l'ex-dessinatrice de Charlie Hebdo qui dessinait sa résilience dans ses deux derniers albums, La légèreté, Les grands espaces. Elle change complètement d'univers et c'est beau, tout simplement beau et intéressant. De la croix, donc, c'est édité chez Dargo.
Merci beaucoup, Mathieu Charrier.
Je vous en prie.
Le grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Thierry Dagiral. Excusez-nous.
Il faut qu'on vous dise ce qui se passe.
Faut expliquer.
Marion Sauveur est rentré dans le studio avec son master. Et c'est particulier, quoi.
Voilà, il embaume tout le studio. Et donc, allez, c'est l'heure à présent du coup de fil culture, la culture qui doit se réinventer cet été.
Et on est à Paris ce soir, à la Villette, pour le festival Cinéma en plein air. Bonsoir, Sandrine Le Guen.
Bonsoir.
Vous êtes la programmatrice de ce festival. C'est tous les soirs, là, en ce moment, c'est vers 22h et c'est gratuit.
C'est gratuit, effectivement, tous les soirs, avec une relâche le lundi et le mardi.
D'accord.
C'est jusqu'au 23 août.
Ça, c'est bien. C'est avec une, en plus, programmation complètement éclectique. Hein.
Oui, éclectique et adaptée au contexte post-Covid, où on avait, post-confinement surtout, oui, où on avait tous envie de nature et de grands espaces.
Bien sûr.
Donc, c'est le thème de l'édition de cette année.
Comment vous faites pour faire respecter les gestes barrières ?
Ah ben on respecte effectivement les gestes barrières, il y a tout un protocole qui, ouais, est mis en place et donc il y a un marquage au sol.
Voilà,
et les,
on est bien espacé, d'accord.
Voilà, et les personnes doivent s'inscrire sur le site internet également.
Ce soir, il y a Easy Rider, demain c'est Mad Max, samedi c'est Kirikou, il y en a vraiment pour toutes les populations, pour tous les âges. Hein.
Oui, effectivement, on essaye d'avoir une programmation éclectique et qui puisse contenter tous les spectateurs et tous les Parisiens.
Et c'est en plein parc, ça veut dire qu'on peut se balader juste avant de venir regarder un bon ciné en plein air.
Bien sûr, et même, on peut même venir dès 19h avec son pique-nique sur le site.
Mais voilà une bonne idée. Et s'il pleut, voilà, ce week-end, visiblement, ça ne va pas être formidable. Qu'est-ce qui se passe ? C'est annulé ou on prend un parapluie ?
On prend un parapluie.
Coûte que coûte, voilà. Merci, ouais, à vous, merci beaucoup. C'est gratuit, donc c'est jusqu'au 23 août à la Villette à Paris. Merci beaucoup, Sandrine Le Guen.
Merci.
Europe 1. Thierry Dagiral, c'est tous les soirs dans ce 18-20 Douce France.
C'est tous les soirs en effet, on redécouvre nos si beaux territoires de France. Ce soir on va partir en Alsace et après donc on va déguster
le master.
Master. Embarquement immédiat dans 2 minutes sur Europe 1, on se bouche le nez.
Le
Le grand journal du soir en balade sur Europe 1 avec Tous France. Tous les soirs, donc on fait le plein d'idées, de sorties, de visites. Et puis on va à la découverte aussi de produits régionaux. On est en Alsace ce soir. Excusez-moi.
Non mais bon, on va,
Thierry,
je crois
Thierry.
Qu'on en a pour 20 minutes d'odeur assez forte. On va déguster ça avec Marion
Sauveur. On va le goûter, on va voilà. Le goûter.
Alors ce soir précisément, on est entre Strasbourg et Colmar. On est au pied du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Ce soir, on retrouve le correspondant d'Europe 1 en Alsace. Bonsoir Arthur Mbaché.
Bonsoir.
Arthur, on va vous suivre avec plaisir. On va visiter ce soir le château du Hockenheimburg. On est sur la route des vins. Les paysages sont magnifiques. Hein, des petits villages avec des clochers levés dans les vallons. On est là entouré de vignobles et de forêts. Et surplombant tout ça, eh bien, cet incroyable château fort, comme dans les films, comme dans les livres finalement.
Écoutez, c'est très simple. Prenez un enfant avec un minimum d'imagination, plantez-le n'importe où dans le château.
Et bam, 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 bam. Le chevalier et le cheval et l'épée. Et on peut se battre.
Avec le plancher, le bec.
On peut se battre, comme le montre avec vigueur la guide du château Céline Kugler, devant une impressionnante rangée de hallebardes.
Face à un chevalier sur le destrier, je l'agrippe à l'armure, je le fais tomber du cheval. Si je vois que ça sourit encore sous l'armure, je prends la pointe. Je porte l'estocade. Et sinon, vous avez une arme redoutable, l'arme du lâche, du couard, du diable. Mis à part les arquebuses, ce sont les arbalètes.
La maman du petit garçon qui dit bam bam bam, c'est Anne, originaire de région parisienne.
Mais le côté pédagogique est très intéressant pour les enfants. Ils ont l'impression de se l'approprier. Ils voient les conditions dans lesquelles ils vivaient, ils se déplaçaient, les chemins de ronde. Ils peuvent quand même s'imaginer à la place d'un soldat, d'un seigneur. Ça, c'est quand même génial, ça.
Arthur, à quoi il ressemble alors ce château hein?
Eh bien, fermez les yeux, imaginez la caricature du château fort. Ouais. Voilà, vous l'avez. Je vous précise juste la couleur. Il est dans cette pierre caractéristique du coin, le grès rose des Vosges, comme la cathédrale de Strasbourg. Alors, pourquoi je vous dis caricature? Parce que ce véritable château médiéval, 1147, dit-on, était en ruine à la fin du 19e, au moment où l'empereur allemand Guillaume II décide de le restaurer pour faire la pub du Reich qui vient d'annexer l'Alsace. Et là, eh ben c'est un peu Disneyland avant l'heure, la prudence légendaire des actuels, architectes des bâtiments de France, vous oubliez. Voilà un joli petit moulin à vent, alors que personne n'en a jamais vu un dans la région. Plein de vitraux, magnifiques mais complètement anachroniques. Un donjon rehaussé pour faire plus beau, ou le délirant grand salon de l'empereur.
En fait, cette pièce-là, elle ne correspond mais absolument plus du tout au Moyen-Âge. Là, c'est un peu le Moyen-Âge rêvé. Comme on l'imaginait à l'époque de Guillaume II.
Guillaume II a mis des moyens impressionnants pour cette restauration qui n'a duré que 8 ans. Efficacité allemande, on va dire.
Dès 1902, dans cette vieille ruine du Moyen-Âge, il y a de l'électricité. Là, vous êtes à 750 mètres d'altitude, il y a de l'électricité. Dans la ruine, vous aviez des rails de chemin de fer avec cette locomotive ici pour transporter le matériel. C'est extrêmement moderne.
La grande illusion avec Jean Gabin.
Si vous voulez un avant-goût haut de gamme pour refaire une idée du château, Jean Renoir, La Grande Illusion, 1937, des scènes mythiques du cinéma français tournées ici au Königsbourg, du noir et blanc avant la visite en vrai, le rose du château, les nuances de vert dans la forêt et les vignes, et puis après la visite, les reflets dorés évidemment d'un Gewürz ou d'un Riesling.
Ça donne envie.
Oui, merci pour cette première visite à Arthur, Arthur Mbaché bien sûr en Alsace pour Europa. On va descendre encore un peu plus, direction Mulhouse. On est là à 30 minutes de Colmar, 1 heure de Strasbourg. On va visiter la cité du train. Bonsoir Sylvain Verneret.
Bonsoir, merci de m'accueillir sur votre antenne.
Mais merci à vous d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de la cité du train, de la cité du train, le plus grand musée ferroviaire d'Europe qui s'étend sur 6 hectares, c'est ça?
Exactement, 6 hectares entre les espaces d'exposition, les espaces extérieurs visitables par le public et puis évidemment des espaces un peu plus techniques avec nos bâtiments de réserve dans lesquels on abrite une partie de nos collections.
C'est le plus grand musée d'Europe, c'est ça ?
Absolument, le plus grand pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que vous venez de le citer, nous avons des emprises sur 6 hectares, mais ça tient notamment à la nature de nos collections. Je le dis toujours en plaisantant, ça n'est pas le musée de la cuillère à café. Hein. Une pièce de collection chez nous, c'est en moyenne 25 mètres de long, 80 tonnes. Oui. Donc il nous faut un peu de superficie pour pouvoir exposer cette collection.
Bien sûr. C'est ce que des pièces d'origine, on peut voir quoi par exemple?
Alors, c'est accessoirement et je dirais de manière incontestable, très certainement la plus grande collection de matériel roulant au monde. Collection qui est la collection du patrimoine SNCF. Et ce qui fait la qualité de cette collection, c'est que toutes les pièces que nous exposons et présentons à notre public sont des pièces entièrement d'origine. Restaurées, bien évidemment, mais tout à fait d'origine.
Comme quoi, par exemple, citez-nous juste un exemple d'une pièce vraiment...
Alors, l'exemple, je dirais, le plus significatif est l'exposition de la plus ancienne locomotive à vapeur encore conservée en état d'origine en Europe, qui est une locomotive qu'on appelle la Saint-Pierre et qui date de 1844.
D'accord, parfait. Et il y a un parcours spectacle également à faire aussi avec les enfants.
Alors, effectivement, il y a trois espaces d'exposition principaux dans ce musée. Le parcours spectacle est une exposition thématique dans une ambiance un petit peu de plateau de cinéma où on présente l'évolution du matériel ferroviaire par rapport à des grands rendez-vous de l'histoire. Il y a un espace qu'on appelle les quais d'histoire, qui est un espace d'exposition chronologique, et puis un espace d'exposition extérieure. Avec, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est la présentation de toute l'histoire du chemin de fer français, depuis ses origines en 1827 jusqu'à nos jours, avec la dernière pièce que l'on présente, qui est une motrice de TGV.
Parfait. Donc la Cité du Train, il y a le site internet pour se renseigner, citédutrain.com. Grand merci à vous, Sylvain Verneret. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On va donner
les tarifs.
Merci, on va donner les tarifs, Marlène, c'est important.
Oui, comptez 13 euros par adulte, 9,50 euros pour les enfants, mais je précise quand même que c'est gratuit pour les moins de 4 ans.
Allez, on dort où ce soir? Une bonne adresse avec vous, Philippe Viguier, des places du Figaro Magazine. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir Thierry, je vous emmène à Colmar, à l'hôtel Le Colombier, en plein cœur historique. C'est une adresse que je connais bien, très couleur locale, genre colombage, enduit, vieux rose, un bâti de la Renaissance pour cet hôtel luxueux, mais rien d'ostentatoire, entièrement rénové. On y dort très bien, une bonne table, un accueil familial, de la bonne hôtellerie française. C'est juste beau, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter.
Et pour quel tarif alors?
Alors comptez une centaine d'euros, Le Colombier à Colmar.
Merci beaucoup Philippe, à demain bien sûr.
Et on poursuit notre balade ce soir dans Douce France. On rend hommage aux producteurs et restaurateurs alsaciens.
Bonsoir Marion Sauveur.
Bonsoir.
Alors ce soir donc, on passe à votre fameux fromage.
Et oui, et pas n'importe lequel, hein, c'est du Münster. Alors il passe pas inaperçu avec son parfum puissant.
Je confirme.
Mais il ne faut pas se laisser impressionner, il est beaucoup plus doux qu'on pourrait le croire. Nous c'est en vrai. Avons deux en studio, dont un au cumin. Je vous laisse donc les déguster. Ce Münster, il a été créé par des moines bénédictins. Ils se sont installés en plein massif des Vosges, dans la ville actuelle de Münster. C'est pour conserver le lait des vaches, se nourrir, qu'ils ont fabriqué ce fromage. Münster, qui serait un dérivé de monastère, donc. C'est un fromage à pâte molle, un peu crayeux, à croûte lavée, de couleur jaune-orangée. Il a du caractère, mais il est tellement crémeux. Alors, je vous emmène le découvrir chez un producteur de Münster bio, Antoine Fernex. On quitte Mulhouse pour remonter direction Strasbourg. On s'arrête à Heiligenstein. On vient de prendre une bouffée de nature à la ferme de Trutenhausen.
Bonsoir, Antoine Fernex.
Bonsoir.
Vos parents étaient agriculteurs, la nature, vous l'aimez?
Ah, mes parents n'étaient pas agriculteurs, mais la nature, je l'aime.
Je croyais qu'ils étaient agriculteurs. Bon.
Non.
Vous vous baladez dans cette nature, vous baladez, vous regardez les insectes, les oiseaux autour de vos terrains?
Oui, mes parents étaient naturalistes. Donc, amoureux de la nature. Donc, cet aspect, je l'ai vraiment connu de toute mon enfance.
D'accord. Vous êtes éleveur depuis combien de temps?
Je travaille dans l'agriculture depuis maintenant bientôt 45 ans. Je suis à mon compte depuis 39 ans.
D'accord. Avec vos propres vaches, donc. Et vous travaillez, bien évidemment, ce fromage depuis une quarantaine d'années.
Oui, c'est ça.
Marion?
Et il travaille donc en bio, il privilégie la prairie naturelle, d'accord, la flore naturelle, la fertilisation avec le fumier de vos vaches. Donc c'est une approche de santé différente aussi pour les vaches, c'est un processus différent pour aller toujours dans le sens du bien-être animal.
Antoine, comment vous le fabriquez alors ce Münster qui, c'est vrai, sent très fort,
ouais, très bon,
mais par contre qui est délicieux, vraiment.
Mon Dieu.
Oui, il sent surtout de plus en plus fort quand il vieillit.
Ah ben c'est ça.
On peut aussi le manger un peu plus jeune et il est moins fort. Il ne faut pas le garder trop longtemps emballé non plus dans son papier.
Marion, c'est vrai que quand même. Très vieux alors.
Mais non, même pas.
Des fois, on en parle des années après. de l'histoire du master dans le frigo.
Ah oui, c'est ça. Mais en studio, je peux vous dire que c'est pas facile.
Vous utilisez du lait cru hein, pour faire ce fromage. Hein.
Oui, nous, on fait le master au lait cru, on fait un master fermier, voilà, tout à fait traditionnel.
Et quand on est client comme nous, il faut mieux le manger, le Munster très affiné. Qu'est-ce qu'on demande à notre fromager ?
On s'arrange toujours, nous, pour avoir, quand on va au marché, des masters un peu plus jeunes pour madame. Et puis, pour monsieur qui fait le fort, on a un master très affiné.
Ben voilà, Thierry, vous voyez.
dites-moi, je crois que les critères de l'appellation master vont changer, là.
Oui, c'est vrai. Il y a un peu un resserrement du cahier des charges qui était assez mou, enfin assez laxiste. Voilà, c'est vrai.
D'accord. Vous aimez. Dites-nous, vous aimez le manger comment alors ? Petite recette comme ça sur le pouce.
Moi, je l'aime ni trop jeune ni trop fait. Voilà, mûr quand il n'est pas encore vraiment redoutable au niveau de l'odeur. Mais moi, je mange.
Ils ont des nez sensibles.
J'aime le master simplement comme il y a une recette vraiment tout à fait basique, traditionnelle en Alsace avec des pommes de terre vapeur, du beurre frais, parce qu'on fait le beurre aussi toutes les semaines et le beurre frais du jour, ça nous amène à faire ce repas tout simple, pommes de terre nature, du beurre frais et du Munster.
C'est tout simple, c'est
avec
c'est
une salade, c'est parfait. Et ça fait un repas complet.
Merci beaucoup c'est Antoine. Délicieux. Merci Antoine Fernex, on vous retrouve bien sûr vos fromages, vos Munster et tous vos produits de la ferme le samedi au marché de producteurs de Strasbourg ainsi qu'au marché bio de producteurs à Aubernay. Et on peut aussi venir le vendredi après-midi directement acheter le Munster à la ferme. Merci à vous. Marion, on va reprendre la route.
Et oui, on repart. On va s'attabler chez Thierry Schwartz. C'est à Aubernay, à 10 km. C'est un amoureux du produit, des produits de son terroir. Alors, il travaille avec une cinquantaine de producteurs qui cultivent la terre pour la plupart en biodynamie. C'est une cuisine nature qu'il propose dans son restaurant où il y a 1200 références de vins naturels. C'est la plus grande cave d'Europe.
Bonsoir Thierry Schwartz.
Bonsoir.
Alors hélas, on ne va pas déboucher de bouteille, mais on va découvrir comment vous cuisinez le Munster. C'est un fromage que vous aimez mettre en valeur dans l'assiette. Hein.
Alors tout à fait, parce que déjà celui d'Antoine est exceptionnel et c'est vraiment un emblème, une référence dans la région.
Oui. Et comment vous le cuisinez, vous ? Dites-nous.
Alors nous, on avait souhaité le faire découvrir à tout le monde. Donc plutôt faire découvrir son côté fruité, son côté fleuri. Donc effectivement, on le prend pas trop paffiné. On retire la croûte, enfin une partie de la croûte. Ouais. Et on en fait une crème très légère et on le sert en tarte. Donc on va avoir une tarte très fine.
Ah, c'est pas mal, ça, une tartelette au Munster, oui.
Exactement, avec une pâte sablée au Saint-Doux. Donc on est vraiment dans la région. Et qu'on va garnir légèrement d'un résiné, une compote caramélisée de raisin Gewürztraminer. Mmh. Du coup, on retrouve un peu la tradition de la gelée de Gewürztraminer qui vient accompagner sur certaines tables le Munster et qu'on va recouvrir de cette crème légère pour retrouver à la fois tous les arômes fleuris, tous les arômes fruités et également le Munster à travers son parfum et sa douceur, non sa puissance.
On a un vrai équilibre dans cette recette, du coup, entre le raisin, le Munster, c'est un très bel équilibre.
Thierry, vous faites aussi des pique-niques, je crois. Hein.
Oui, on fait aussi des pique-niques. On en a d'ailleurs fait un aujourd'hui. Alors, pique-nique chic, on dirait ça, puisqu'on délocalise une fois par mois en été le restaurant dans notre verger qui est situé au-dessus de Molsheim, au milieu du grand cru Bourdertal. Mmh. Vous avez autour de vous des mirabelliers, des couetches, des cochers qui se pourbent, la plupart sont sauvages. Ouais. Sous un grand acacia, on cuisine en pleine nature, sans eau, sans électricité, tout au feu de bois. Et les convives, on leur dresse une table dans les prés, dans notre verger. Ce qu'on a fait ce midi, et on leur fait la même cuisine qu'au restaurant, bien sûr, avec des plats qui ont spécialement été créés pour l'occasion.
Parfait, dites donc. Écoutez, grand merci à vous Thierry Schwartz. Le prochain pique-nique, c'est quoi, le 1er août, hein, c'est ça ?
Samedi 1er août, à déjeuner.
Exactement, on déguste votre cuisine dans votre restaurant éponyme, et puis on peut aussi découvrir vos bretzels et pains bio aux farines anciennes dans votre boulangerie. Tout se passe donc à Aubernay. Grand merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup Marion. On vous retrouve bien sûr demain matin dans la matinale de François Geffrier. Qu'est-ce qu'on va manger?
Eh bien du concombre, ça va nous changer du minster.
Oui, c'est ça.
Et on vous emmènera...
Plus léger, ça sent moins fort.
On vous emmènera dans 12 France le goûter dans les Hauts-de-France demain soir.
On sera dans les Hauts-de-France demain, avec plaisir. Écoutez, merci, grand merci à vous Marion. À demain.
Avec plaisir.
Europe 1.
Et dans un instant Thierry?
Dans un instant, le festival idéal d'Émilie Mazoyer. Bien sûr, c'est tout l'été sur Europe 1 avec des lives. Ce soir, Elton John à Moscou en 1960. Et Michel Jonas.
J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un angle bâti.
Michel Jonas, concert en 2017 chez Émilie ce soir. Merci, merci beaucoup Marlène.
C'est déjà fini malheureusement.
Exactement, mais demain on revient hein, dès 18h. Ah oui. Merci à toute l'équipe qui a préparé ces deux heures d'infos. Simon Guérini à la réalisation. À suivre bien sûr la météo et l'actu à 20h. On se retrouve demain dès 18h avec plaisir sur Europe 1 pour écouter bien sûr Le Monde Changer.
C'était Thierry Daziral.
Europe 1.